Ce matin, il est clair qu'au travers de tout ce qu'on vient d'entendre et de vivre, on a besoin d'entendre quelque chose sur l'espérance. Donc, ce matin, on m'a demandé sur quoi tu vas prêcher. J'ai dit sur le livre de Job. Ah non ! C'est encourageant. Parce qu'on voit toujours que la souffrance. Il n'y a pas que ça, et loin de là. Voilà, donc ce matin, je vais lire le passage concerné. C'est Job 19. Voilà, 23 à 27. Oh, si seulement mes paroles étaient écrites, si seulement elles étaient inscrites dans un livre, avec un stylet de fer et du plomb, et gravées dans le roc pour toujours. Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le dernier, il sera debout sur la terre. Et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi, pour moi-même, et mes yeux le verront, et non un autre. Alors, je ne sais pas si... Si. Ouais, ça va. On ne peut pas tout vérifier, hein, pardon. Alors voilà, ce matin, sur la base de ce passage, je voudrais nous encourager. Oui, notre foi est certaine, et oui, elle nous amènera au ciel. Le livre de Job, bon, c'est un livre que j'aime beaucoup, effectivement, c'est considéré comme le livre le plus ancien dans la parole de Dieu. Voilà, c'est bien. Hein. Au moins 4000 ans, au moins. Peut-être plus. Après, on va pas, hein, on n'est pas à 1000 ans près. Alors, je vais faire un bref rappel à ceux pour qui ce livre est inconnu. Parce que peut-être qu'il y en a, ils l'ont jamais lu. Je ne vais pas dire qui l'a jamais lu, hein, vous inquiétez pas. C'est privé. Donc Job, c'est un homme comblé. Si on le disait en langage moderne, ça roule, tout marche. Il est riche, très riche, très très riche. Il est très intelligent, ça c'est sûr, on le verra dans ses discours. Il a une très belle famille, bref, c'est le bonheur complet. Et Job, il croit en Dieu, et il prend Dieu vraiment au sérieux. Il va déclarer des choses dans ce livre incroyables. C'est une profession de foi permanente. Alors, si vous n'avez jamais lu ce livre, c'est l'été, commencez à le lire, parce que c'est un livre sur lequel on viva, on revient sans arrêt. C'est tellement beau. À des moments, il y a des passages d'un point de vue littéraire extraordinaire. On dit que c'est un des plus beaux, que c'est un sommet de la littérature. Il comporte beaucoup d'enseignements sur l'amour, sur l'amitié, sur la grâce. Hein. Voilà. Donc Job, un jour, tout va bien, et puis un jour, sa vie bascule. Alors, vous le lirez, pourquoi elle bascule. Il perd tout, richesse, enfant, puis on aime bien rajouter, virgule, sauf sa femme. Et moi, en préparant un mariage, je ne sais pas pourquoi je me suis rappelé ceci, un mois avant le mariage, Quentin, écoute, il parle, elle écoute. Un mois après le mariage, elle parle, il écoute. 10 ans après le mariage, il parle en même temps et les voisins écoutent. Voilà, c'était une parenthèse un peu... Et peut-être que Job et sa femme, les voisins écoutaient, ça je ne sais rien. Donc on revient à ce passage, donc il y a 4000 ans au Moyen-Orient, à la sortie d'un village, il y a un milliardaire, Steve Jobs, il est mort, un autre, Bezos, c'est devenu un paria, et en fait, comme c'est décrit, en fait, il est sur un tas de... sur les poubelles du village. Il est assis sur les poubelles du village. Et puis ses amis sont venus le voir pour le consoler. Et puis il parle. C'est vraiment le Moyen-Orient dans ce sens-là. Et c'est vraiment super. Et puis d'un coup, tout d'un coup, il dit « Oh, si seulement mes paroles étaient écrites, si seulement elles étaient inscrites dans un livre, avec un stylet de fer et de plomb et gravées dans le roc pour toujours. » Alors qu'est-ce qu'il allait dire de si extraordinaire à cet homme pour se dire... Parce que c'est pas banal, hein. Vous imaginez, vous, d'un coup, vous vous diriez « Oh là là, j'ai un truc génial à dire, putain, si j'avais un stylo, ça peut arriver, mais enfin, c'est rare. » Ben lui, c'est vraiment une révélation. Et c'est super beau parce qu'il veut nous transmettre quelque chose. Il veut nous transmettre un message. Hein. C'est comme si on avait reçu un message de la part de Job. Et cette phrase, c'est celle-ci. « Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. » Qu'il restera le dernier sur la terre et qu'après que ma peau sera détruite, je verrai Dieu en ma chair, je le verrai moi-même de mes yeux, moi, et non pas un autre. » Je vais le relire peut-être plusieurs fois, pas maintenant, hein, dans le message, parce que c'est vraiment incroyable. On est hyper familier, c'est un verset qui est absolument extraordinaire. Ces paroles, elles ont été écrites il y a 4000 ans. 2000 ans avant la venue du Seigneur. C'est pas Paul qui a écrit, c'est Job. « Je sais, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon racheteur est vivant et que je le verrai. » Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, devant ce passage, cette vision aussi claire, aussi précise d'un point de vue prophétique, il y a déjà quelque chose qui peut, qui doit fortifier notre foi. Parce qu'elle nous dépasse. Voilà, elle nous dépasse. On peut regarder, c'est Job qui a écrit. Oui, c'est bien l'Ancien Testament. On est bien au début de l'Ancien Testament. On n'est pas aux dernières pages du Nouveau Testament. Vous voyez, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste comme ça. Voilà. Pour moi, ce passage me fait du bien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il m'assoit par terre. C'est une claque. Il me confond face à la parole de Dieu. Voilà. On en reste baba, ébahi. Hein ? Il y a une telle précision, il y a un tel sens. Et moi, j'aime être confondu par la parole de Dieu parce que c'est ce qui m'aide à la lire. Parce que moi, j'aime lire. Des fois, enfin pas des fois, je lis trop, mais pas à la Bible, de romans, de commentaires bibliques. Et des fois, j'oublie de lire la parole de Dieu. Et quand on tombe sur ce genre de passage, ça nous rappelle quelle est la parole de Dieu et qu'elle a des choses à nous dire tellement profondes, tellement importantes. Donc, on en reste convaincu. 2000 ans avant Jésus-Christ, hein, c'est incroyable. Bon, on ne va pas passer la matinée à être ébahi, hein, mais quand même, je vous laisse y réfléchir. Alors, Job, tout d'abord, il est frappé dans sa famille, puis après, ça va être dans sa personne. Hein, il va avoir des ulcères, il va avoir... Enfin, c'est pas beau, quoi. Il va avoir beaucoup de choses d'un point de vue physique, mais Dieu ne va pas permettre qu'on prenne sa vie. Voilà. Alors, au début, il accepte avec résignation. Hein, il le dit, du même Dieu qui lui donna jadis les biens. Vous vous souvenez, on l'a chanté tout à l'heure, hein, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est des paroles difficiles. À un moment donné, dans la louange, il y a quelque temps, bon, je ne sais plus qui c'était, donc ce n'est pas grave, il voulait à tout prix dire l'Éternel a donné, l'Éternel a redonné. Que l'Éternel soit béni. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Hein. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit béni. Parfois difficile à accepter, très difficile, mais c'est la parole de Dieu. Après, plus tard dans le livre, Job, j'allais dire l'apôtre Paul, il confesse son péché, entre autres. Oui, qui parle ? Il confesse son péché. Attendez, voilà. Mais il se demande avec tristesse pourquoi Dieu le punit si sévèrement. Hein, vous savez, il y a des passages célèbres. Par exemple, si j'ai regardé la Vierge, par exemple, hein, la jeune fille, que mes yeux soient cousus. Il va loin hein, dans sa intégrité, dans son engagement. Il dit des choses, ben, lisez-le, mais c'est absolument extraordinaire. Mais il est triste parce qu'il ne comprend pas à un moment donné pourquoi Dieu le punit si sévèrement. Ses amis lui disent, ben, c'est évident, il te punit parce que tu as péché, point, cherche pas. Et là, on pourrait dire que d'un coup, révélation du Saint-Esprit, chapitre 19, il sent que cette révélation est importante et il va s'écrier, que ce soit écrit, que ce soit gravé, que ce soit pour les générations futures, il faut que ce que je vais dire, voilà, je sais que mon Rédempteur est vivant et que mes yeux le verront. Et puis ensuite, ben la vision retombe et il se va se plaindre de nouveau contre ce même Dieu dans lequel... il croit et il se réjouit. Puis, à la fin du livre, il a une discussion avec Dieu. Alors là aussi, je vous conseille, c'est monumental, hein, où Dieu va lui dire, mais où tu étais quand je faisais ça, quand je faisais ça, quand je faisais ça, mais tu étais où? Et là, Job, il sent qu'il ne fait pas le poids. Quoi. Il n'est pas très à l'aise. Comme nous. Hein. Voilà. Ce n'est pas le sujet, mais c'est pour vous donner envie de le lire. Enfin, j'espère. Donc là, revenons à Job. La contradiction de Job, et c'est là que c'est intéressant, parce que sinon, c'est la même que la nôtre. C'est un humain, on est humain. Tout à tour, il croit, tout à tour, il est incrédule, il est saint, il est pécheur, il prie aujourd'hui son Dieu, il l'oublie le lendemain, il espère, il craint, il mêle les larmes au sourire, c'est chacun de nous. L'histoire de Job, eh bien, c'est celle de David, qui, quand il écrit ses psaumes, hein, il connaît l'amour de Dieu, mais c'est aussi celui qui fait tuer un homme pour prendre sa femme. L'histoire de Pierre, jurant fidélité à Jésus, quelques heures avant de le trahir. Celle de l'apôtre Paul, qui pratique le mal au milieu du bien. Hein, misérable que je suis, je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. On peut tous, à la suite de Paul, s'écrier cela. Qui me délivrera de ce corps, il va dire. Et tout ça pour arriver à un constat, c'est un message sur l'espérance, mais il y a un constat avant d'espérer, et ce qui prouve bien que l'espérance ne dépend pas de nous. C'est une misère que la nôtre. Qu'on ne puisse même pas se maintenir une journée, je l'ai déjà dit une autre fois, mais c'est vrai, dans l'atmosphère paisible de la foi. 24 heures. Aucun de nous n'en est capable. Rien qu'un jour. Soyez tranquille. Vous pouvez vous reposer dans la foi pendant 24 heures parce que l'Éternel combattra pour vous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit sans cesse. Un jour, se poser devant le Seigneur. Mon gendre, il a fait une expérience. D'ailleurs, peut-être je la ferai. Il est parti 48 heures dans un monastère, vous savez, où on ne parle pas et tout ça. Peut-être je la ferai. Bon, bref. Mais peut-être que pendant 24 heures, peut-être qu'il l'a vécu, je ne sais pas. 24 heures, c'est beaucoup pour être paisible dans la foi. 24 heures. Des fois, on tient 5 minutes. Hein ? 5 minutes, on est paisible. Là, on se lève le matin, on est paisible. On prend la voiture, 12 secondes après, on est moins paisible. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, c'est 24 heures. Alors, dans le même jour, on peut être heureux en Jésus, misérable, content de vivre, dégoûté de la vie. On peut être en colère, on peut être pacifique, on peut être croyant, on peut être incrédule, on peut être des saints, on peut être des pécheurs. Je pense, enfin moi je le vis en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, voilà. Alors ce manque de constance nous apprend une chose, au moins une bonne chose. Premièrement, nous méfier de nous-mêmes, voilà, déjà. Nous réaliser combien nous sommes fragiles dans nos décisions, dans nos postures, dans nos... Nous croyons fort, nous sommes faibles. Nous croyons faibles, nous sommes forts parce que nous confions en Jésus-Christ. Tout cela afin de nous amener à nous tenir plus, de plus en plus, sous la dépendance du Seigneur. Donc c'est extrêmement positif. Ce mélange de bien et de mal, on va les résumer comme ça, en nous c'est quoi ? C'est un signe de notre double nature. Une trace de la chute et une preuve du travail du Saint-Esprit dans notre vie. Donc c'est extrêmement positif hein, dans nos cœurs. Job, dans un autre passage, il dit qu'on ne tire pas le pur de l'impur. On ne peut pas tirer quelque chose de bon de nous. C'est râlant, hein ? Moi, ça me... Mais c'est comme ça. C'est donc pas de Dieu que viennent nos tentations. Ce n'est pas donc de Dieu que viennent nos péchés. Hein ? C'est de nous-mêmes que précèdent nos bonnes actions, nos bonnes pensées, nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées. Bien sûr, on a un ennemi, c'est le diable, je ne le mets pas de côté, mais voilà, ce n'est pas de Dieu. Même si Dieu est souverain, et on a du mal à comprendre cela. Puis après Job, il parle de sa mort. Lorsque ma peau sera détruite, dit-il, et là, il parle de sa résurrection, car il ajoute « Alors je verrai Dieu en ma chair ». C'est marrant, sa peau est détruite, mais il voit Dieu en sa chair. Ça ressemble à la résurrection, hein ? Des corps, en tout cas. Et puis là, c'est quoi ? C'est une espérance ? C'est une présomption ? Je verrai Dieu ? Qu'est-ce que c'est ? Et Job dit « Je sais ». Pas « je pense », mais « je sais ». Pas j'espère, pas je doute, je sais. Je sais que je verrai Dieu. Ça, c'est Job qui nous le dit. Je sais que je verrai Dieu. Et là, pareil, on croit entendre David dans les psaumes qui va dire « Je sais en qui j'ai cru ». L'apôtre Paul, « Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront me séparer de l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, m'a témoigné en Jésus-Christ. » Je sais, dit Job, je sais, dit David, je suis assuré, dit Paul. Toujours la même foi, elle est pleine d'assurance, elle est pleine de certitude. C'est ça la foi. Hein ? C'est ça la nature de la foi chrétienne. Ce n'est pas une espérance, c'est une profonde conviction. Alors on l'a entendu, réentendu, ben je vous le rappelle encore ce matin. Et c'est la foi chrétienne, ce n'est pas seulement la conviction qu'elle existe comme foi, mais la foi chrétienne, elle a un autre truc, c'est qu'elle croit, qu'elle a la conviction qu'elle est la vérité. Et c'est cela qui peut parfois choquer, vous savez, des non-croyants ou d'autres personnes qui ont une autre religion, qui pensent avoir la vérité ou à minima partager la vérité. Mais nous, chacun de nous, nés de nouveau, nous affirmons qu'elle est la vérité. Pas une vérité, la vérité. Hein ? L'unique qui mène à la vie. C'est gênant, non ? Vous trouvez pas ça gênant des fois quand face à des personnes qui sont sympas, qui croient en Dieu, en leur Dieu, à leur manière. Et puis, en tout cas, quand vous voulez leur témoigner, c'est pas aussi simple que ça. Et en plus, c'est la faute du Seigneur. C'est lui qui le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors si nul ne vient au Père que par lui et qu'il est la vérité, le chemin et la vie, ce que nous croyons est la vérité face aux autres. Je vous laisse y réfléchir, mais ça aussi, c'est pas rien. Mais cette vérité, elle doit nous amener de la sagesse, de l'écoute pour les autres. Voilà. Pas rentrer dans les personnes, car cette vérité, elle n'est pas là pour s'imposer, elle est là pour être révélée. Hein ? On témoigne, et la personne, après, toutes circonstances peuvent être différentes. Des fois, on témoigne un peu plus fort que d'autres, mais il faut vraiment se laisser enseigner par le Saint-Esprit à ce niveau-là, pour vraiment pas être une pierre d'achoppement, mais au contraire un vrai témoin de Jésus-Christ. Parce que la rencontre avec Christ, c'est une révélation. Et si nous, quand on témoigne, on oublie ça, on oublie le message de l'Évangile. Ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on annonce. On annonce notre vérité. C'est Jésus la vérité. Nous, on n'est pas la vérité. Hein ? Voilà, donc soyons à l'écoute. Moi, je sais qu'il y a peu de temps, j'ai témoigné à quelqu'un, et à la fin, la personne était... Enfin, c'était gênant, quoi. J'en ai déduit qu'elle pensait qu'elle était chrétienne, mais qu'elle ne l'était pas. Selon moi, en plus, selon moi, qui je suis, moi. Mais bon, des fois, on est un peu bête. Bref, elle a rencontré d'autres personnes, elle lui a dit, bah, Fred, il a dit que je n'étais pas chrétienne. Je n'ai jamais dit. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle a entendu dans ce que je lui ai dit. Donc, vous voyez, des fois, voilà. Je prie pour cette dame et j'espère... J'ai confiance que je vais la revoir, si dit. Mais bon, voilà. Juste pour vous le dire, pour vous encourager à témoigner, mais à témoigner toujours dans cet esprit d'amour, d'écoute, et d'entendre qu'on se convertit parce que Dieu se révèle. On ne se convertit pas parce qu'on a eu des bons arguments. Même si on aime avoir de bons arguments, puis c'est légitime aussi. Voilà. Avant cela, donc, je vous disais qu'il arrive au même homme de croire et d'être incrédule. Mais sa foi et son incrédulité, elles ne viennent pas s'unir dans son cœur de manière à produire un mélange, vous savez, un truc qu'on appellerait le doute. Non, le doute, c'est autre chose. Le doute, c'est toujours l'incrédulité. Quand la foi est là, on la sent, elle agit, elle parle à l'âme au nom de Dieu, et ça suffit. Quand la foi est là, on le sait. Voilà, on ne peut pas se l'inventer. On n'est pas présomptueux avec la foi, on l'a reçue. Et cela suffit. Et c'est pour ça que Job, Paul, on dit « je sais ». Je sais. Que Paul, David et Job ont dit « je sais » et Paul « je suis assuré ». Hein ? ou chacun de nous, le jour où on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, on l'a dit oui, je sais. Après, il y a un chemin de vie. On a des hauts, des bas, des incrédulités, des moments de doute. Mais chaque fois que c'est révélé, je sais. Oui, je sais. Et maintenant, quel est l'objet de la foi de Job ? C'est uniquement sa résurrection ? Non. Parce qu'on peut ressusciter, comme quelqu'un a écrit, aux peines éternelles, ou on peut ressusciter à la vie éternelle. Ce n'est pas la même chose. Hein ? On peut voir Dieu aussi, pour reposer dans son sein, ou pour tomber dans son jugement et être jeté dans les temps de feu. Donc vous voyez, ça semble pareil, mais il y a une grosse finalité différente. Hein ? Mais est-ce que Job a besoin d'un rédempteur pour ses péchés ? Ben écoutez ce qu'il dit. Comment l'homme mortel se justifierait devant le Dieu fort ? S'il veut plaider avec lui, il ne lui répondra pas sur un seul article. Quant à moi, j'ai péché. Pourquoi, ô mon Dieu, n'ôtes-tu pas mon péché ? Je demanderai grâce à mon juge. Il a tout compris, Paul. Job. Il a tout compris. Hein ? Voilà. On ne peut pas se justifier devant ce Dieu fort. Hein ? C'est pas grave. Pourquoi, ô mon Dieu, n'ôtes-tu pas mon péché ? Je demanderai grâce à mon juge. Il a tout compris. Vous voyez, il se reconnaît pécheur, il se reconnaît incapable de se justifier devant Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Hein ? Et en plus de quoi, si ce n'est pas de ses péchés, Job avait-il besoin d'être racheté ? Était-ce, je sais pas moi, des dettes d'argent ? Bah, a priori non, hein ? Parce qu'il en avait beaucoup puis il n'en avait plus, donc ça ne crée pas des dettes, ça. Que son rédempteur aurait dû payer ? Était-ce une seconde vie terrestre ? Je ne sais pas, qu'il devait lui faire obtenir ? Ben non, puisqu'après avoir parlé de son rédempteur et de sa mort, Job va se trouver devant Dieu. Sa vie rachetée, elle n'est pas sur terre, donc. Elle est au ciel. Elle est dans l'éternité. C'est ça l'espérance. Hein ? Et est-ce que dans le ciel, pour l'éternité, vous pensez que c'est des biens matériels qu'il faut apporter pour vivre heureux ? Moi, vous allez me dire non. Vous pouvez le dire, je vais boire, putain. Merci. N'est-ce pas plutôt la sainteté ? Hein ? Rien d'impur en sa présence ? Alors la seule dette dont on doit s'acquitter, vous la connaissez, il n'y en a qu'une, et c'est pour ça que Jésus-Christ l'a prise, c'est le péché. Rien d'autre. C'est une rédemption des péchés que parle Job 2000 ans avant la publication de l'Évangile. Et qui peut être ce rédempteur 2000 ans avant Jésus-Christ ? Hein ? Regardez ce passage. Le rédempteur est mis sur la même ligne que Dieu lui-même. « Je sais, dit Job, que mon rédempteur est vivant et que je verrai Dieu. » Le rédempteur de Job n'est ni un homme ni un ange. Il place ce rédempteur à côté du Créateur. Hein ? Et en plus, ce rédempteur, et c'est ça qui est extraordinaire, est auteur de son salut qui conduit vers Dieu. Ça s'appelle Jésus-Christ. Hein ? Rien d'autre. Hein ? Ça paraît impossible, mais si d'un côté il y a un rédempteur et de l'autre il y a Dieu, deux noms différents, deux personnes différentes. S'il s'agissait ici d'une identité, Job aurait dit plutôt « Je sais que mon rédempteur est vivant et que je le verrai. » Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il distingue Dieu de son rédempteur. C'est absolument extraordinaire. Hein ? Donc le rédempteur de Job ne peut pas être une créature, il est placé trop près de Dieu. Les deux noms supposent deux personnes. Ça peut amener à penser que Job nous parle de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Hein ? C'est le Fils qui rachète, c'est ce qu'il dit. Et ce Fils, quand il rachète, qu'est-ce qui se passe ? Il permet de voir Dieu. Quand nous rencontrons Jésus-Christ, nous voyons Dieu. Hein ? Nul ne peut voir le Père si ce n'est par le Fils. Donc voilà. Le rédempteur de Job est le Fils, le même rédempteur que nous avons. C'est l'évangile qu'on retrouve mot à mot dans le livre le plus ancien du monde. Voilà. Voilà. Bon, y en a qui doivent se dire « oui, bof, et alors ?» Moi, non, je suis personnellement estomaqué Et je vous encourage à vraiment lire le livre de Job, parce qu'il y a des trésors dans ce livre. Ça vient nous confirmer le salut, la vérité du salut par la foi et par la croix. Les deux testaments ont été écrits sous la même inspiration, descendant du ciel, la même à des siècles d'intervalle. Maintenant, arrivons à la fin de ce passage. Je le verrai moi-même, là aussi, moi-même, de mes yeux, moi et non pas un autre. Là aussi, c'est extraordinaire. C'est donc nous-mêmes qui verrons Dieu. Moi qui parle, chacun de vous pouvez dire moi, celui qui croit dans ce Rédempteur, moi je verrai Dieu. Moi je verrai celui qui créa le monde. Moi, je vais voir celui qui a fait cette belle nature, qui a semé les étoiles, comme il est dit dans un... Moi, je vais voir celui qui gouverne l'univers. Je vais le voir. Moi, et il dit, pas un autre. C'est intéressant. Et moi-même, je verrai tout cela. Alors, ce ne sera pas moi transformé en un nouvel être, revêtu d'un autre corps et ayant d'autres yeux. Non, ce seront les mêmes yeux qui contempleront Dieu. Voilà. Ce moi suppose une grande intimité. Quand Job dit ça, je pense que c'est pour chacun de nous. Il y a une intimité avec le Seigneur. On va le voir, moi et pas un autre. Ça veut dire que chacun, nous serons en intimité avec lui. Une grande proximité avec le Seigneur. Et ça, c'est tellement encourageant. Seulement ce corps, ces yeux corruptibles d'aujourd'hui, ils auront revêtu l'incorruptibilité. Je le craignais celui-là, parce qu'il est difficile à dire. Ce sera moi avec mes souvenirs, ce sera moi avec mes affections, ce sera moi avec une vie. Je ne perdrai aucune de mes facultés actuelles. Au contraire, elles auront pris l'énergie qui convient à l'éternité. Je me souviendrai peut-être de ma vie terrestre, bien mieux. Dans le ciel, mes souvenirs seront purifiés de toute amertume. Il n'y aura plus de pleurs ni de larmes. Donc, pourquoi on n'aurait pas des souvenirs, après tout ? Mais des souvenirs sans péché, équilibrés, sans amertume, sans se dire « Oh, ça aurait pu se passer comme ça ou comme ça ». Simplement de la joie dans notre cœur. On se reposera de nos peines. Voilà, et pas que 24 heures. On se souviendra de ces moments de joie, de louange, de prière, de culte. Tout ce que j'ai vécu. Et c'est moi-même, de mes yeux, vois comme nous, le disait Job sur la terre, c'est bien moi qui vais contempler mon Rédempteur. Et en plus, vous savez quoi ? Mon Rédempteur, mon Sauveur, il est 100 fois plus aimable. Il est 100 fois, 1000 fois plus doux, plus aimant que je ne peux l'imaginer. Parce qu'il y a ça aussi. C'est notre vision à nous. Dieu est amour, etc. Très bien. Et moi, je crois que c'est à ce moment-là qu'on comprendra vraiment que Dieu est amour. Dieu est amour et rien d'autre. Voilà. Revenons sur terre. Pour l'instant, on ne contemple pas. On n'est pas au ciel. Quelques jours d'exil, et puis la patrie. Quelques heures de foi, ensuite la vue. C'est ça, l'espérance. Pour finir, quand l'abattement nous reviendra, rappelons-nous que c'est nous, nous-mêmes, et non pas un autre, qui verrons Dieu. Rappelons-nous que nous avons un Rédempteur. Et pour Job lui-même, ce n'était pas une probabilité, c'était une certitude. Qui lui fit dire 2000 ans avant la venue du Seigneur, « Je sais ». Alors comment on pourrait ne pas le dire, nous ? « Je sais ». Je sais que mon Rédempteur est vivant. La foi, c'est le support pour vivre l'aujourd'hui, rempli de certitudes du ciel et de l'éternité. Puis je terminerai par cela. Il a su du néant nous conduire à la vie, ne saura-t-il pas de la terre nous conduire aux cieux ? Voilà. Tout cela doit nous pousser à adorer Dieu. Tout cela doit nous pousser à lire la parole de Dieu pour recevoir tout ce qu'il a à nous dire, pour que ses paroles se transforment en vie et pour garder cette espérance et ne pas se la faire voler par les circonstances de la vie, qui sont parfois extrêmement violentes, extrêmement difficiles. Donc, ne nous laissons pas voler ce trésor. Amen. Bah, soyez bénis. Je voudrais juste prier pour chacun maintenant. Amen. Seigneur Jésus, merci de parler à chacun. Au fond de moi, je sais que si on parle d'espérance, que tout ce culte était sur l'espérance, c'est que des personnes ont besoin d'entendre ce message d'espérance, Seigneur Jésus. Et je te demande de les renouveler, je te demande de les encourager, je te demande de vraiment de venir toucher au plus profond dans leur cœur cette étincelle que tu peux faire renaître l'espérance dans ce cœur. En ton nom précieux, Jésus, tu es notre sauveur. Merci pour tout ce qu'on peut vivre déjà aujourd'hui avec toi. Amen. Amen. Soyez bénis.